7h42 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
L'offensive contre Mossoul a donc débuté dans la nuit de dimanche à lundi. Elle vise donc à reprendre le dernier bastion de l'organisation État islamique en Irak. Un bastion qu'elle occupe depuis juin 2014. Pour en parler, je suis en compagnie d'Yves Lacoste. Bonjour, vous êtes géographe et géopoliticien. Et de Frédéric Ancel. Bonjour, vous êtes docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris, spécialiste du Proche-Orient. Quelles sont les forces en présence aujourd'hui à Mossoul, Frédéric Ancel?
Très concrètement, vous avez plusieurs dizaines de milliers de combattants de Daesh qui sont retranchés dans la ville et dans les faubourgs, d'une part. Et d'autre part, de l'autre côté, vous avez un agrégat de forces internationales. Alors, les principales forces, ce sont quand même les Kurdes. Ce sont les seuls qui se battent à la fois vaillamment et efficacement dans cette région depuis maintenant au moins 3 ans. Et puis, vous avez l'armée irakienne. Seulement, l'armée irakienne, c'est essentiellement une armée chiite. Alors, constituée à la fois de milices chiites, de soldats conventionnels chiites. Et puis, ne l'oublions pas, il y a une troisième force dans cette espèce d'agrégat, de patchwork, de force anti-Daesh. Ce sont des sunnites, mais qui se représentent avant tout et qui constituent avant tout des tribus. Autrement dit, dans ces trois forces-là, vous n'avez pas la représentation, la perception valorisante de l'État-nation. C'est important ce que je dis, parce que ça signifie que depuis 2 ans, 3 ans, aucune de ces trois forces principales ne souhaitait véritablement mourir pour Mossoul. Simplement parce que pour les Kurdes, Mossoul est arabe. Pour les chiites du sud de l'Irak, Mossoul est sunnite. Et puis pour ces tribus de l'ouest de l'Irak, Mossoul c'est autre chose, mais ce n'est pas tribal et clanique.
Et alors qu'est-ce qui a décidé de cette bataille du coup ?
Alors tout de même, ce qui a décidé cette bataille, c'est d'abord le caractère totalement outrancier de Daesh. Daesh sur le plan tactique est très puissant, très fort, très malin, mais sur le plan stratégique, pas du tout. Daesh n'a strictement aucun allié et a cassé toute possibilité d'alliance dans la région, on l'a vu avec les Turcs il y a un an de cela. Ensuite, la dangerosité de Daesh. Malgré tout, pour toutes ses forces en présence, Daesh représente sur le plan moral, sur le plan militaire, bien évidemment, sur le plan politique, une vraie menace. Et là aussi, on le voit depuis abondamment depuis plus de 2 ans. Et enfin, troisième point, c'est quand même le soutien de l'aviation américaine, de l'aviation française, des artilleries occidentales, et notamment aussi l'artillerie française, et qui permettent à ces forces-là d'imaginer de prendre Mossoul avec moins de pertes que ce qu'ils auraient pu craindre il y a encore 1 an ou 2 ans de cela.
Quel calendrier peut-on imaginer pour la prise de Mossoul ?
Alors ça, c'est la grande question. L'offensive, elle va commencer vraisemblablement dans les prochains jours. D'abord par un siège en bonne et due forme, ce qui jusqu'à maintenant n'a jamais été totalement réalisé. Je pense qu'on va attendre peut-être, pour certaines forces, c'est même vraisemblable, les premières pluies, notamment pour éteindre les incendies volontaires qui ont été allumés par Daesh, à la fois au niveau de certains puits de pétrole, mais aussi de milliers de pneus, pour limiter la visibilité, l'efficacité de l'aviation. Les premières pluies, et puis où je crois aussi que dans les prochains jours, il y aura la volonté de savoir si les faubourgs ont été piégés. Donc c'est du court terme. En revanche, la prise, ça c'est pour l'attaque, en revanche, la prise définitive de la ville, ça risque de prendre des mois, car on l'a dit, il faut le répéter, on ne peut pas tapisser de bombes cette ville. Elle est encore peuplée d'un million, peut-être 1,5 million d'habitants, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le plan humanitaire de ce que ça peut signifier, et personne ne veut prendre la responsabilité d'écraser cette ville sous les bombes. Autrement dit, il va falloir y aller au sol, il va falloir y aller avec de l'artillerie, et ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
Quel rôle joue la France dans ce dispositif ?
Alors la France, contrairement à ce que croient beaucoup d'observateurs, notamment français, la France joue un rôle fondamental. Un, parce que son artillerie est aujourd'hui sur le terrain la plus puissante, parmi les artilleries développées déployées par les autres États et par les autres forces en présence. Deux, notre aviation. C'est la deuxième, juste en importance, juste après l'aviation américaine. Qualitativement, on est aussi bon qu'eux. Quantitativement, on a moins d'avions, bien évidemment, mais on est juste derrière. Et enfin, il y a des hommes au sol, il y a des commandos. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc je vous dirais que sur l'ensemble des forces en présence, parmi les forces non locales, en quelque sorte, les Français sont immédiatement sur le front.
Yves Lacoste, vous êtes géographe. On vous doit une phrase qui a été énormément commentée. Cette phrase est la suivante. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et lorsqu'on voit la situation en Proche-Orient, en Irak, en Syrie, au Liban, où nous étions la semaine dernière, on se dit que cette phrase est incroyablement juste aujourd'hui. La géographie de l'Irak et de la Syrie, en matière de guerre, que vous inspire-t-elle ?
Ah, écoutez, si on parle de Mossoul, c'est une position de piémont. Il y a une grande montagne, qui est couverte de neige l'hiver, et puis il y a une plaine où débouchent deux fleuves célèbres, le Tigre et l'Euphrate. Bon, et ça c'est la configuration classique. Et les Kurdes, la description qu'en fait Frédéric Ancel est juste. J'ajouterai que c'est des tribus montagnardes qui ont des troupeaux et qui, l'hiver, descendent vers la plaine. Ça, c'est très important, cette position de piémont. Et les positions de piémont, on se bat toujours pour prendre le contrôle de cette position. Et ceci depuis des millénaires. Donc on se bat. Et les tribus, y compris celles qui relèvent du groupe turc, elles se battent entre elles. Et un de mes maîtres, ce célèbre, le grand historien du Moyen-Âge, Ibn Khaldoun, analyse les rapports des tribus entre elles comme des rapports conflictuels, non pas pour se massacrer, mais pour s'entretenir au plan guerrier. Bon. Et les Kurdes, ils ont des rapports avec conflictuels avec ceux qui étaient dans la plaine, c'est-à-dire des tribus arabes de pasteurs. Bon. Et jusque-là, c'était dans la tradition. Bon. J'ajouterais que les Kurdes aussi réglaient des comptes avec des groupes qui se sentaient injustement supérieurs ou qu'ils faisaient leur envie en raison de leur commerce, leur tradition artisanale, manufacturière. Je parle des Arméniens. On parle toujours des rapports des Turcs et des Arméniens, mais il faudrait aussi parler des rapports entre les Kurdes et les Arméniens. Les Kurdes, je sais bien, et les amis des Kurdes n'aiment pas trop qu'on évoque ça. Mais enfin, dans le massacre des Arméniens, les Turcs ont cédé la place aux Kurdes. Bon. Bien, dans le coin, il n'y a plus beaucoup d'Arméniens. Bon. Alors, jusque-là, tout est dans la tradition. Et puis, tout à fait à la fin du 19e siècle, après les découvertes pétrolières en Iran, c'est en Iran que ça commence, au pied de montagne, dans une plaine, où débouchent des grands fleuves, etc. Et là, on découvre du pétrole, qui sort presque tout seul. Bien. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que jusque-là, on connaissait les gisements de pétrole, mais aux États-Unis, en Pennsylvanie. Et c'est pas du tout la même chose. Le Pennsylvanie, c'est un plateau ancien, etc. Mais il n'y a pas de grande montagne qui plonge sur une plaine. Et là, les gisements d'Iran vont donner l'idée à des géologues d'aller voir un petit peu au pied d'autres montagnes, dans une plaine sédimentaire. Et ça va être les géologues allemands, puisque l'Empire turc, si vous voulez, coincé entre l'Autriche qui pousse dans les Balkans et la Russie, les Turcs jouent la carte de l'Empire allemand. Et l'Empire allemand ne demande que ça. Bon, c'est là où il y a ce projet formidable, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui est le chemin de fer de Bagdad, le Bagdad-Bahn, où on partait de Berlin, on traversait les Balkans, et pour arriver à Bagdad. Et là, les géologues allemands font les premières les premiers forages. À l'époque, c'est pas très profond, mais là, le pétrole n'est pas très profond. Et ça, c'est vraiment une découverte dont les conséquences géopolitiques vont être très, très importantes. Parce que jusque-là, on s'intéressait pas tellement à ce coin-là. Hein. Et à partir de ce moment-là, les grands groupes pétroliers, qui sont les groupes anglais, avant d'être les groupes américains, eh bien, vont commencer à se soucier de ça. Et c'est un des enjeux de la Première Guerre mondiale.
Est-ce que ça signifie aujourd'hui, Yves Lacoste, puisque pour vous, il y a un lien étroit entre la géographie et la guerre, et l'histoire permet aussi d'expliquer la formation, en quelque sorte, de cette géographie-là, est-ce que ça signifie que pour vous, il peut y avoir un avenir dans cette région, un avenir de paix, sans redéfinition des frontières de l'Irak, peut-être de la Syrie, peut-être également d'autres pays ?
Ben oui, mais qu'est-ce qui va redéfinir ? Bon, les Kurdes exigent le contrôle du Piémont où se trouve Mossoul, où se trouve le pétrole. Mais les Kurdes, de bonne tradition tribale, continuent à se battre entre eux. Hein. Vous avez deux chefs kurdes qui existent depuis des décennies, hein. Barzani et Talabani, hein, et qui se détestent. Bon. Alors pour l'instant, on passe un peu sous silence leur conflit. Mais à l'époque de Saddam Hussein, par exemple, eh bien, vous avez des groupes turcs qui jouaient Saddam Hussein et d'autres contre. Bon, par conséquent, tout ça est très compliqué. Et c'est pas parce qu'on est kurde qu'on va ne pas se battre entre soi. Hein ? C'est pas parce qu'on est arabe qu'on va pas se battre entre arabes.
On passe de la géographie à la géopolitique, Frédéric Ancel. Des exemples de guerres urbaines, on en a eu. On a eu Madrid pendant la guerre d'Espagne. Et on a eu également Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que
on
c'est
On a eu Beyrouth. La guerre civile à Beyrouth qui a été épouvantable.
Hein. Mais alors, justement, qu'est-ce que ces conflits urbains peuvent nous permettre de comprendre sur ce qui va se dérouler à Mossoul, puisque Mossoul, vous l'avez dit, Frédéric Ancel, c'est une ville éminemment peuplée, et donc le risque, ce qui est à redouter, c'est qu'il faille reprendre pâté de maison par pâté de maison, dans un contexte qui n'est évidemment pas celui de Stalingrad. Quels sont les scénarios en présence aujourd'hui ?
Le scénario principal, c'est celui que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire maison par maison. Et ça, c'est le pire. C'est le scénario cauchemar. C'est vraisemblablement celui qui a tout de même fait hésiter la coalition internationale pendant longtemps et qui continue quelque part de la faire hésiter. C'est-à-dire que s'il faut en arriver là, s'il faut pour détruire Daesh, en tout cas la seule ville qu'il possède, parce que le reste, Raqqa, si vous voulez, en Syrie, c'était de 200 000 habitants à tout casser, c'est un très gros bourg.
Bon, Deir ez-Zor ?
Oui, Deir ez-Zor, c'est un gros bourg aussi. La seule vraie grande ville dont a disposé Daesh et que dont s'est emparé l'État islamique il y a deux ans, c'est vraiment Mossoul. Bon. Même si une partie de la population a fui dès le départ. On a là une population très concrètement otage. Otage de Daesh qui se fiche éperdument, on l'a bien vu, de chacun des individus qui composent cette ville, puisque c'est un groupe de type millénariste apocalyptique, d'une part. D'autre part, qui se moque aussi des symboles. Hein. J'entends dire depuis quelques jours que c'est à Mossoul que le prétendu calife a proclamé califat. Oui, mais très bien. Mais on sait très bien que l'idéologie à la fois mortifère et djihadiste de Daesh ne se focalise pas sur un territoire en particulier. Bon, et par conséquent, on risque effectivement d'avoir une guérilla urbaine, en fait, c'est le mot principal, hein, si vous voulez, que je voulais employer, pendant des semaines ou des mois, avec pour principale victime, évidemment, la population sur place. Je ne vois pas très bien pourquoi les combattants de Daesh décideraient de quitter la queue entre les pattes, comme disaient souvent les militaires, la ville, pour se réfugier où, d'ailleurs, puisque maintenant elle est encerclée.
Je rappelle le titre du livre que vous co-signez, Frédéric Ancel et Yves Lacoste, Géopolitique de la Nation France et aux Presses Universitaires de France. On vous retrouve vers 8h20. En attendant, il est 7h56 sur France Culture.